journal est présenté par Claire Flochel.
Bonsoir à tous. La journée toujours Charlie, des débats sur la liberté d'expression, c'était cet après-midi à Paris, à la veille de la commémoration des 3 ans de l'attentat contre Charlie Hebdo. Louis-Valentin Lopez Sierrandi nous raconte au début de ce journal. Je suis un génie très stable. Aux États-Unis, Donald Trump fait son éloge pour répondre aux critiques qui mettent en doute ses aptitudes mentales dans le livre sorti hier et qui raconte sa première année de présidence. Nous rejoindrons notre correspondant à Washington, Grégory Phillips. Au Moyen-Orient, la tension est toujours vive autour de l'Iran. Conseil de sécurité des Nations Unies réuni hier soir à la demande controversée des États-Unis. C'est à l'Iran de régler ses propres problèmes, s'est agacée la Russie. Qu'en pensent les Iraniens ? Mariam Pirzadeh est allée poser la question au bazar de Téhéran. Et puis les tensions très fortes dans la péninsule coréenne vont-elles être en partie apaisées par le sport ? Si la situation reste particulièrement délicate, la délégation nord-coréenne pourrait néanmoins être présente lors des Jeux Olympiques d'hiver qui débutent le 9 février prochain. On fera le point avec Eva Jednak. Demain, on commémorera les 3 ans de l'attentat contre Charlie Hebdo. Attentat qui avait fait 12 morts et 11 blessés, suivi 2 jours plus tard de l'attentat contre l'hypercachère de la Porte de Vincennes. Des débats sont organisés cet après-midi à Paris pour raviver l'esprit Charlie et le combat pour la liberté d'expression. Ça se passe aux Folies Bergères à l'initiative du Printemps Républicain, Association de Défense de la Laïcité. Bonsoir Louis-Valentin Lopez.
Bonsoir Claire Flochel.
Vous avez assisté à ce colloque et vous avez rencontré Marie Cabret, la DRH de l'hebdomadaire satirique. Et pour elle, même 3 ans après, l'attentat, c'est comme si c'était hier, c'est ce qu'elle vous a dit.
Et pourtant, Marie Cabret, elle espérait que cela allait s'arrêter, hein, que c'était inhérent à 2015, pour reprendre ses mots. Mais non, l'attentat, elle le revit tous les jours.
C'est le paradoxe d'être un journal libre, l'humour libre, et puis d'avoir un tel poids de sécurité sur les épaules, parce que nos locaux, c'est un blocos. Voilà, j'ai pas d'autre mot que celui-là. Mon quotidien a changé, je vais acheter ma baguette de pain avec 2 officiers de sécurité. Je le dis en souriant, mais ça fait 3 ans que ça dure.
Marie Cabret souhaite aussi dénoncer un amalgame sur l'esprit Charlie qui, selon elle, même 3 ans après, est toujours d'actualité.
On a dit l'esprit Charlie, c'est l'adhésion à la ligne éditoriale de Charlie. Mais non, jamais de la vie. Enfin, y compris parmi les gens qu'on va entendre. Je pense à Caroline Fourest, par exemple. Elle n'adhère pas à 100% des dessins.
De l'indignation donc, mais ses yeux gris acier se plissent un peu lorsqu'elle sourit quand elle voit les centaines de personnes prendre place sur les vieux sièges des Folies Bergères. Toujours Charlie, c'est aussi l'occasion de faire une piqûre de rappel.
Rappeler quelque chose qui peut-être s'oublie. Le 7 janvier, des journalistes, des dessinateurs sont morts sous les balles des frères Kouachi en raison de leurs opinions politiques. Et c'est ça qui est important pour moi de rappeler, et de la mémoire au combat, parce que le combat est toujours le même, hein. Combat sur la laïcité, qui est une notion qui a été manipulée de toutes parts, et puis la liberté d'expression, à savoir, en ce qui nous concerne, le droit au blasphème.
Et pour transmettre ces messages de tolérance, de liberté, c'est pour cela que Marie Cabret est là, et ces messages qu'elle diffuse aussi dans les écoles et les centres sociaux.
Merci beaucoup Louis-Valentin Lopez. Demain, Emmanuel Macron et la maire de Paris, Anne Hidalgo, rendront hommage aux victimes en fin de matinée. Des cérémonies très sobres, conformément aux demandes des familles. Les deux représentants iront successivement du 11e arrondissement, lieu de l'attaque contre Charlie Hebdo, puis Porte de Vincennes pour honorer les victimes de la prise d'otage de l'hypercachère. Le dispositif alerte enlèvement déclenché depuis ce matin après la disparition d'un bébé de 2 mois enlevé par son père à l'hôpital Purpan de Toulouse hier soir. Le petit Tizio était alimenté par des sondes gastriques et par voie intraveineuse et son pronostic vital est engagé s'il est privé de soins. L'hôpital rappelle au père ce soir l'impérieuse nécessité de ramener au plus vite le nourrisson. Un père âgé de 33 ans, de grande taille, avec une barbe fournie et des cheveux longs et bouclés, il est susceptible de se déplacer à bord d'une Peugeot 307 blanche immatriculée dans l'Ariège. Il a été visiblement vexé par les critiques. Donald Trump a fait son propre éloge aujourd'hui sur Twitter. Le président américain s'est qualifié de génie très stable, alors que ses aptitudes mentales ont été remises en question dans le livre Feu et Furie. Depuis hier déjà, les proches du chef d'État américain tentent d'éteindre l'incendie. La correspondance à Washington de Grégory Phillips.
À ceux qui doutent publiquement de sa santé mentale, Donald Trump répond qu'il est devenu président des États-Unis à son premier essai, qu'on peut le décrire comme quelqu'un d'extrêmement malin, voire un génie qui a deux atouts, son intelligence et sa stabilité mentale. Ce n'est pas la première fois que la stabilité du président est remise en question. On apprend d'ailleurs que début décembre, une douzaine de représentants et de sénateurs démocrates ont auditionné une psychiatre de l'université de Yale, Bendy Lee. Elle est l'auteur principal d'un ouvrage paru à l'automne et intitulé « Le dangereux cas ». Donald Trump.
Il a montré des signes d'impulsivité, de paranoïa. Il imagine des menaces qui n'existent pas. Parfois, il perd le sens de la réalité. Il a montré un manque d'empathie en visitant, par exemple, des zones dévastées comme si ça ne le concernait pas. Il a montré, enfin, un besoin constant d'affirmer son pouvoir, comme s'il faisait preuve d'insécurité personnelle, la peur d'être perçu comme petit ou sans valeur.
Même à l'intérieur de son camp, Trump interroge. Le sénateur John McCain l'a plusieurs fois décrit comme quelqu'un d'extrêmement impulsif. Un autre sénateur, Bob Corker, expliquait à l'automne que selon lui, le travail des conseillers de la Maison-Blanche était essentiellement de le contenir. Interrogé sur CNN, le secrétaire d'État Rex Tillerson a répondu en affirmant qu'il n'avait aucune raison de douter de l'aptitude mentale du président.
Grégory Phillips, correspondant de France Culture à Washington. Cuba aura un nouveau président dans moins de 4 mois. Le Conseil d'État cubain a fixé au dimanche 11 mars les élections générales sur l'île pour désigner les délégués des provinces et les députés à l'Assemblée nationale. Un processus qui aboutira donc à l'élection d'un nouveau président le 19 avril pour remplacer Raúl Castro. En Iran, de nouvelles manifestations pro-gouvernementales ce samedi pour le 4e jour consécutif. Des milliers de personnes ont défilé dans plusieurs villes du pays en réaction au mouvement de contestation de ces derniers jours qui a fait 21 morts. Hier soir, une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU s'est tenue sur l'Iran à la demande des États-Unis. Le message de ce peuple, c'est cesser de soutenir le terrorisme, a lancé l'ambassadrice américaine aux Nations Unies. Mêlez-vous de vos affaires, en substance répliquer la Russie. Et c'est aussi ce que pense la plupart des Iraniens. Mariam Pirzadeh, correspondante de France 24 à Téhéran pour France Culture.
Au bazar de Téhéran, on a suivi ce qu'il se disait à des milliers de kilomètres de là, sur l'Iran. La réaction est presque unanime. Donald Trump nous a traités de terroristes, puis nous a offert son soutien avant de nous traiter de peuple affamé, explique Atam, 34 ans, vendeur d'ustensiles de cuisine. Une mère de famille explique que les tweets du président américain n'ont fait que du mal aux Iraniens. Du côté des autorités, Mohammad Javad Zarif a été le premier à réagir sur Twitter et l'un des seuls, évoquant une nouvelle gaffe américaine en matière de politique extérieure. Le chef de la diplomatie iranienne a relayé la longue lettre adressée par le représentant iranien au secrétaire général de l'ONU, parlant d'une ingérence et d'un abus de pouvoir américain en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, une vision relayée aussi dans les journaux et à la télévision d'État. Cette ingérence est dénoncée depuis le début des protestations en Iran par une partie des autorités comme ayant déclenché ces manifestations dans le pays. Une parole est désormais particulièrement scrutée dans les prochains jours, celle de l'ayatollah Khamenei, guide suprême iranien et plus haute autorité du pays.
Mariam Pirzadeh, correspondante de France 24 à Téhéran pour France Culture. Encore des civils tués aujourd'hui en Syrie, au moins 17 morts dans la Ghouta orientale, une enclave rebelle assiégée près de Damas. Elle est bombardée quasi quotidiennement par l'armée de Bachar el-Assad et son allié russe. Il y aura sans doute des sportifs nord-coréens aux JO d'hiver le mois prochain. Jeux olympiques organisés en Corée du Sud du 9 au 25 février. La Corée du Nord estime aujourd'hui que sa participation est vraisemblable cette année. Bonsoir Eva Jednak.
Bonsoir Claire.
Cette annonce intervient après des mois de tensions dans la péninsule coréenne, dans la lignée des signaux d'apaisement qu'on peut observer depuis une semaine entre les deux pays.
Oui, depuis les vœux du leader nord-coréen Kim Jong-un pour la nouvelle année. C'est lui qui évoque pour la première fois cette possibilité, envoyer une délégation d'athlètes aux Jeux Olympiques d'hiver de l'autre côté de la frontière. Immédiatement, Séoul saisit cette main tendue et sollicite un dialogue avec son voisin sur les conditions d'envoi de cette délégation. Pyongyang accepte alors de rétablir la ligne téléphonique entre les deux pays, pourtant coupée depuis un an et demi. Depuis, les perspectives d'apaisement s'élargissent. La Corée du Sud et les États-Unis décident même de reporter leurs manœuvres militaires conjointes dans la péninsule, considérées par Pyongyang comme une éventuelle éventuelle tentative d'invasion. Elle suscite chaque année un regain de tension dans la région. Et finalement, hier, les deux Corées se sont accordées sur une rencontre, la première depuis 2 ans. Ce sera mardi dans le village frontalier de Panmunjom, là où le cessez-le-feu entre les deux pays avait été signé en 1953. S'il est précisé que ce rendez-vous a bien lieu dans le cadre de la venue des sportifs nord-coréens, Séoul espère consolider cette reprise des négociations pour pouvoir aborder ensuite d'autres sujets comme celui du nucléaire qui concentre toutes les tensions actuelles.
Merci Eva Jednak. La météo de demain dimanche, encore pas mal de pluie sur tout le pays. On verra un peu le soleil jusqu'à la fin du week-end. Si ce n'est dans la vallée du Rhône, le Pays Basque et sur la pointe bretonne demain matin, les températures ne dépasseront généralement pas les 10 degrés, sauf quelques exceptions comme 18 degrés prévus en Corse. 15 départements sont désormais placés en vigilance orange, pluie, inondation et orage par Météo France. Dans le nord-est, le nord de la Nouvelle-Aquitaine et dans le sud de la région Occitanie. Ce journal a été préparé avec Caroline Beneteau. À la technique, c'était Emmanuel Morse-Duncan.